Je me suis revendiquée féministe. Après, mes convictions écologiques sont aussi arrivées. Et puis, elles étaient là en parallèle. Et en fait, à un moment, j'ai eu cette réalisation que c'était combattre la même chose, c'était combattre le même système, les mêmes dynamiques d'oppression. Et donc, oui, en fait, il n'y a pas de problème à être féministe et à être écologique et en fait à être écoféministe. Et c'est OK. Et je pense qu'au final, que ce soit dire oui, je suis écolo ou dire oui, je suis féministe, c'est deux mots qui, dans la société actuelle, viennent avec un bagage qui fait peur, un bagage d'idées préconçues qui ne ressemblent pas du tout à ce que ça veut dire. Alors se revendiquer écoféministe, c'était quand même un pas assez important, mais du coup je suis assez fière de l'avoir fait aujourd'hui.
Vous venez d'entendre la voix d'Éline du collectif Nous Tout Trône, enregistrée lors du tout premier festival écoféministe qui a eu lieu à Lyon le 9 octobre 2022. C'était l'Écofémina Festival. Ce festival, entièrement bénévole et indépendant, il a été imaginé par trois femmes. Déborah, fondatrice du Cocon Solidaire, Héloïse, créatrice de Moonlycat, et Léa, fondatrice de PEMLAB. Avec Laetitia, on est hyper heureuse de faire cette hors-série sur ce festival, car déjà, ce sont des femmes qu'on apprécie vraiment. Et aussi, comme on y était, on a voulu vous partager ce qu'on y a vécu, ce qu'on y a ressenti. Donc d'abord, la richesse des thématiques et des échanges nous ont énormément apporté. Et aussi, on a ressenti une profonde bienveillance et une sororité dans cette belle journée.
Et finalement, c'est vraiment de ça dont on a voulu vous parler dans cet épisode. Comment prendre soin les unes des autres? Car pendant cette journée, c'est un peu comme si on était dans une bulle de bien-être chaude et réconfortante. Et en même temps, on a réalisé qu'on fabriquait aussi brique par brique un monde meilleur. Vous allez entendre des extraits d'interviews du jour J, d'enregistrements de tables rondes et de retours post-événement. La qualité du son et les conditions d'enregistrement ne sont pas toujours optimales, mais on espère que cela ne vous gâchera pas trop l'écoute. Et on commence tout de suite avec Déborah.
La genèse de l'Écofémina Festival, finalement, elle est assez en lien avec l'ADN du Cocon Solidaire, donc, qui est une association dédiée aux femmes et dont la vocation est d'être un espace créateur de liens sociaux. Nous, on aime beaucoup dire qu'on est agitateur d'échanges et d'apprentissage auprès de la communauté féminine que l'on accompagne. Et finalement, cette question de festival, en tout cas ce projet, on l'a toujours eu. On souhaitait effectivement pouvoir monter un festival qui soit pensé autour des problématiques et des intérêts féminins. Mais malheureusement, on l'avait toujours laissé dans les cartons, faute de ressources à y consacrer. Mais ça, c'était avant que l'on ne rencontre Héloïse, aka Moonlycat, et Léa, qui est porteuse du projet PEMLAB. Et finalement, en se rencontrant toutes les trois à travers nos structures différentes, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des envies et des valeurs communes. Et cette émulation, cette énergie qui est née à travers notre rencontre a permis de réaliser l'Écofémina Festival.
Cette journée, elle était aussi dédiée au bien-être et au prendre soin. Donc on a commencé avec Hélène par un cours de yoga. Et puis ensuite, on est parti micro à la main à la rencontre du public et on a fait la rencontre à ce moment-là de Céline, qu'on a interviewée sur les questions de sa position, sa connaissance sur l'écoféminisme et de pourquoi elle avait décidé de venir à cet événement.
Alors salut Céline, on vient de te rencontrer sur le festival du coup Écofémina. Est-ce que tu as déjà une sensibilité liée au féminisme ou alors à l'écologie d'autre part et du coup potentiellement l'écoféminisme peut rassembler un peu tout ça ou c'est pas forcément déjà des réflexions que tu as aussi
Alors effectivement, écoféminisme, c'est quelque chose que j'ai pas forcément dans laquelle j'ai beaucoup de clés, mais par contre je suis très sur la question du féminisme d'abord, c'est vraiment celle-là en premier qui m'a appelée et par ricochet qui m'a fait aller vers un peu plus l'écologie, même si là aussi encore j'en suis vraiment dans le côté novice de la chose. Oui, je fais les grandes choses, je vais trier mon verre à la maison, je vais trier mes cartons, mais après ça s'arrête là chez moi et qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Et ça m'intéresse encore plus quand on arrive aujourd'hui à comprendre que tout est un petit peu lié et que certains auteurs aussi traitent ce sujet d'une façon globale qui permettrait que, bah, en fait, si quelqu'un fait un geste, si on s'y met tous, c'est toute la population et non pas que les femmes qui pourraient en avoir les conséquences positives. Donc c'est vraiment ça qui me plaît dans cette idée. En fait, c'est vraiment la vision globale à 360 où on met le terme écoféminisme sur quelque chose qui, en fin de compte, touche tout le monde et est vraiment au service de tout le monde.
Trop chouette. C'est, je pense que tu as déjà les bonnes bases pour l'écoféminisme que tu découvres, parce que c'est vrai que souvent c'est comme ça qu'on voit l'écoféminisme, avec une vision un peu holistique sur les piliers essentiels de la vie. Et peut-être une dernière question, il y a une programmation assez riche sur ce festival. Qu'est-ce qui t'a interpellé le plus au niveau des ateliers, conférences prévues? Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui?
Alors là, le programme est vaste. J'ai construit le mien par rapport, pour moi, au point d'orgue de cette journée, qui est la table ronde sur l'écoféminisme, justement, parce que c'est vraiment sur ça que, pour ça que je suis venue. Et après, c'était le côté festival sur une journée entière, où on est vraiment dans une bulle. Et je suis venue seule aussi, je suis venue seule par choix, parce que c'était aussi pour m'ouvrir peut-être à d'autres personnes, m'ouvrir à... Et c'est peut-être plus... Quand on est seul, on n'a pas le choix. Et j'étais, alors, pas surprise, mais le fait qu'il y ait un atelier cuisine, par exemple. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Là, c'est un peu mon... voilà, ma petite surprise de la journée. Qu'est-ce que ça va être et en quoi ça peut être lié? En quoi... comment peut-on lier tout ça ensemble?
On a aussi voulu comprendre quels étaient les enjeux et les problématiques que voulaient soulever les organisatrices, et notamment pourquoi la cause menstruelle prenait une place si importante dans la programmation du festival. Du coup, on est allé interroger Léa, qui est fondatrice de PEMLAB, un futur tiers-lieu dédié au bien-être menstruel et intime sur Paris.
Alors j'ai co-organisé effectivement le festival suite à ma rencontre avec Héloïse et Déborah, et on avait toute une appétence justement pour le féminisme, l'écologie et la cause menstruelle, et on s'est dit pourquoi pas regrouper justement toutes nos compétences autour de ce sujet qui est donc la cause menstruelle. Et donc moi je suis venue aussi donc en tant que co-organisatrice mais aussi intervenante pour présenter ma marque, et donc je suis ravie surtout de pouvoir voir qu'en fait on a réussi à centraliser tout plein d'intervenants et d'intervenantes qui sont engagés, qui ont les mêmes valeurs que nous et qui sont là pour sensibiliser sur tous ces sujets qui, je pense, sont des problématiques globales et auxquelles la société n'a répondu pour le moment que de manière assez segmentée et partielle. Et donc, je pense qu'on manque encore beaucoup d'informations. Et c'est d'ailleurs aussi bien que je vois qu'il y a des hommes autour de nous. Je suis ravie de voir que ça n'intéresse pas que les femmes, parce que les règles, c'est pas que l'affaire des femmes, c'est l'affaire de toutes et tous. Voilà.
Et alors, du coup, quand on voit la programmation qui est très riche, très variée du festival, en particulier tout ce qui va être autour de menstruations, ou en tout cas du cycle féminin, c'est pas forcément le premier aspect auquel on pense quand on parle d'écoféminisme. Alors du coup, pourquoi cet aspect-là et pourquoi ça prend une place importante pour vous et dans le festival?
En fait, je pense qu'il y a un lien entre féminisme, écologie et menstruation. Déjà, en fait, parce que les menstruations, c'est un enjeu environnemental. Ça fait des années qu'on porte des protections hygiéniques qui sont polluantes, qui mettent 500 ans à se décomposer, qui dégradent nos écosystèmes marins et terrestres. Et du coup, en fait, on s'est dit, finalement, entre le féminisme, l'écologie et les menstruations, il y a vraiment un lien qui est évident. Et aussi, l'écoféminisme, par rapport au patriarcat, le fait que pendant très longtemps, les règles, c'était quelque chose de tabou, tout simplement parce que les hommes aussi ont rendu ce sujet tabou. Alors après, je veux pas rentrer dans des considérations trop politiques, mais même nous, entre femmes, en fait, finalement, on a, légitimé un petit peu ce tabou, et ça fait très peu de temps finalement qu'on en parle entre nous. Donc je pense que finalement on voit assez bien le lien en fait entre cette société qui a été patriarcale et voilà tout ce qui est capitalisme, le fait qu'il y avait pas de transparence sur les produits qu'on utilisait. Donc voilà, je pense, je sais pas si c'est assez clair, mais voilà le lien qu'on en a fait entre féminisme, écologie et menstruation.
Oui, alors ce qui est clair, c'est que le choix de parler des règles de menstruation et de mettre ce sujet sur le devant de la scène, c'est déjà un engagement fort et politique. Un autre grand moment de cette journée a été la table ronde du début d'après-midi qui s'est intitulée « Écoféminisme, un engagement au quotidien » et qui accueillait quatre personnalités, Marie-Charlotte Garin, députée du groupe d'opposition NUPES, Marion Azevedo, mémorante à l'Institut Transition, Louise Chanz, avocate à Kaizen Avocat, et Hélène du collectif Nous Tout Trône. J'avoue que j'ai vraiment été scotchée par cette table ronde, aussi bien par la qualité des échanges que par la bonne humeur, la bienveillance et la sororité qui s'est dégagée de ce moment. Franchement, c'est vraiment rare de parvenir à rassembler des femmes sur ce type d'événement avec autant de brio, donc chapeau aux organisatrices. Nous, on s'est régalés, mais on n'a pas pu laisser les 2 heures de table ronde. On aurait bien aimé, ceci dit, mais ça faisait un peu long.
Et on commence tout de suite par écouter Marie-Charlotte. Allez, c'est parti.
Moi, j'ai fait une année où j'ai fait un stage aux États-Unis, donc je pense que du coup, peut-être j'ai un peu plus grenouillé dans le milieu anglo-saxon qui m'a peut-être un peu plus poussée vers une certaine forme de féminisme, en tout cas à ce moment-là. Et je crois que ça s'est monté en puissance, les deux en même temps, de manière assez parallèle. Et après, il y a vraiment eu ce truc où j'ai commencé à lire des choses sur l'écoféminisme et à être genre, ça marche vachement bien, ça explique plein de choses. Et il y a eu ce moment où vraiment, je crois que le moment où je me suis dit, ok, c'est bon, on incarne. Ça a été ce truc où j'ai décidé d'animer les cercles en non-mixité pendant la campagne des écolos pendant les municipales, où j'étais mais surex quoi, je tombe genre c'est trop génial, c'est les deux trucs de ma vie qui se rencontrent enfin, et où du coup je me sentais mais vraiment à ma place quoi, et c'était trop, enfin vraiment surex, hein, vraiment trop bien. C'est ça, c'est quand j'ai eu l'idée, genre avant même le premier, genre. Et en fait ça a été génial quoi, et depuis c'est un truc que j'essaye de faire régulièrement en politique, c'est d'animer des temps justement à destination des femmes pour leur donner confiance, pour qu'elles montent en puissance, pour qu'elles prennent leur place. Et moi je faisais ça, j'avais jamais été candidate de ma vie, hein. J'étais juste là en mode genre, en fait pimper les meufs moi ça me va, donc et donner un petit peu de cette force aux autres. Et je crois que c'est ce moment là où j'étais ok quoi, je suis au bon endroit quoi, je suis en politique mais j'incarne quelque chose de profondément féministe, de profondément sororal aussi, enfin ce côté de la sororité en politique qui est pas simple à tenir mais qui pour moi est hyper important, et ce côté on prend soin les uns des autres en fait, parce que moi, j'en parle peut-être plus comme une matérialiste, quoi, avec un prisme extrêmement politique, extrêmement revendicatif, etc., etc. Mais pour moi, le prendre soin, c'est hyper important. Et quand je me suis présentée pour être candidate aux législatives en interne, parce qu'on décide en interne d'abord de qui on envoie, un des éléments que j'ai porté, moi, c'était en fait, on va être dans l'opposition et ça va être compliqué et il faudra prendre soin de ce groupe.
Alors, on vient d'entendre Marie-Charlotte Garin qui nous a donné quelques infos, quelques tips pour prendre soin les uns des autres en politique. On va écouter à présent les autres intervenantes qui nous présentent en fait leur levier d'action pour s'engager dans un monde plus écoféministe. Elles vont répondre à la question comment être et incarner l'écoféminisme au quotidien. On commence tout de suite par Hélène, puis on écoutera Marion et enfin Louise.
Je pense qu'il y a plusieurs leviers à avoir, et alors déjà ne pas avoir peur des mots, ne pas avoir peur de dire ok je suis féministe, ok je suis écoféministe, etc. Et aussi s'accorder du temps, c'est-à-dire que c'est ok d'avoir envie d'action mais, et de pas avoir envie d'être en table ronde un dimanche à parler avec des inconnus, c'est ok. Et il y a plusieurs leviers, je pense qu'il y a un premier niveau serait le levier de la sphère individuelle qui là va être s'informer en fait, tout simplement lire, écouter, regarder, ça c'est quelque chose qui est à la portée de tous et toutes, avec plein de ressources qui sont gratuites aussi, hein. Je pense par exemple les bibliothèques ressources ou les livres, mais les podcasts qui sont disponibles gratuitement en ligne, enfin voilà, je pense qu'il y a un premier step qui est de s'informer et qui ne s'arrête jamais. Enfin voilà, non mais c'est vrai. Enfin je sais pas si vous partagez cette avis, mais je pense que enfin moi je suis encore en train d'apprendre plein de choses sur tous les mouvements militants et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Après une fois qu'on a fait ce premier step individuel, il y a la sphère un peu plus large qui va être de commencer à rentrer en dialogue avec les gens qu'on connaît, avec ses amis, avec ses collègues. Là cette fois ça fait un peu peur parce qu'on sait que tout le monde partage pas ses opinions. On n'est pas là pour imposer une opinion, en tout cas dans le premier temps, mais on est là voilà, pour dire hey, pour titiller, hey, j'ai lu ça hier, enfin j'ai regardé ça hier, ouais, c'était fou quoi. Hey, voilà, en ce moment je suis en train d'écouter tel podcast qui vient me remuer sur ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est rentrer en dialogue. Des fois, oui, des fois vous allez vous rendre compte qu'il y a des potes vraiment
Enfin, ça peut rester vos poches, mais ça ira pas plus loin, quoi. Ou alors, faut faire un tri des fois. Moi, j'ai fait des tris petit à petit. Le tri s'est fait naturellement aussi. Donc, en tout cas, commencez, voilà, dans une posture, ou même, ou en tout cas, si vous choisissez aussi vos groupes d'amis avec qui vous vous sentez en sécurité pour aborder ces sujets, mais voilà, partir du personnel, après dans une sphère, on va dire, familiale et amicale, et puis après, je pense qu'il y a comme, enfin, moi, je crois profondément dans une passer au step d'après, quand on se sent prêt ou prête, qui est de s'investir dans des collectifs ou dans des associations. Moi, ça m'a sauvée. Moi, je suis très vénère. contre la société. Et du coup, j'étais là, j'étais vraiment une boule de colère comme ça, en train de regarder mes séries et de lire mes livres. Non, mais c'est pas possible. Et en fait, rejoindre, moi, ça fait un an. Tu me vois là sur le canapé, c'est pas possible.
Mais fais quelque chose.
Voilà. Et ben, donc j'ai commencé à participer à des actions qu'on me proposait un peu ponctuellement. Enfin, je vais parler de mon expérience propre, hein, qui est celle de nous toutes, qui donc on propose assez régulièrement à nos militantes de participer ponctuellement à nos actions. Donc j'ai commencé à participer ponctuellement. Puis après, il y a un an, on m'a proposé de rejoindre le collectif au niveau de la coordination au niveau du collectif de toute rôle. Et en fait, je donne du temps, ça me prend de l'énergie, mais en fait, cette colère que je vivais seule, au moins, je la mets dans l'action. Et moi, vraiment, ça me fait un bien fou pour même ma santé mentale, quoi. Donc, je ne peux que vous encourager, toutes et toutes, à vous investir dans des actions. Ça ne veut pas dire prendre des postes à responsabilité dans des associations. Ça ne veut pas dire y passer 10 heures par semaine. Je pense que le territoire associatif lyonnais, par exemple, est extrêmement riche. Et vous pouvez trouver, je pense à Anciela par exemple, qui a un annuaire des associations qui est disponible chez Rally. Vous pouvez trouver des choses qui peuvent vous prendre peut-être 2 heures par mois. Enfin voilà. Mais rien que ça, je pense que ça met du sens. Donc il y a sortir un peu de passer dans ce que j'ai appelé le step un peu public. Voilà. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un step que j'ai pas réussi à rentrer dans ce que j'ai essayé de construire dans Pourquoi, qui est le sphère aussi. Et là, il y a plus de l'action individuelle, mais dans la question de petits pas, de la consommation. Parce que dans ce système aussi d'oppression des corps, de la planète, etc., c'est aussi un système qui est profondément capitaliste, dans lequel on consomme. Je ne dis pas d'arrêter de consommer, moi-même, j'ai pas réussi encore, hein, mais c'est de choisir ce qu'on consomme. Et que ce qu'on consomme, de fait de l'argent, donc à qui est-ce que je vais donner mon argent à, des producteurs, productrices locaux, locales, ou est-ce que voilà, je vais donner mon argent ailleurs, mais aussi dans votre temps. Quand je disais tout à l'heure de s'informer, est-ce que j'ai le choix entre 2 livres, est-ce que je vais lire un auteur ou une autrice? J'ai le choix entre 2 podcasts, est-ce que je vais prendre un podcast d'une réalisatrice ou d'un réalisateur? C'est des petits biais, en fait, qui au final, c'est juste faire un choix. Mais commencer comme ça à se dire, ok, je vais essayer dans mes habitudes de consommation, qu'elles soient vraiment matérielles ou même culturelles, de choisir de donner son temps à des personnes racisées, des personnes femmes, c'est aussi des petits biais d'action qui sont, je pense, à la portée de tous et toutes. Et voilà, et on peut être vénère, mais être vénère à plusieurs, je vous jure, c'est faux.
Pour le fait de consommer autrement, je suis tout à fait d'accord aussi. Et peut-être si je peux vous reprendre un exemple très concret, c'est celui de la mode. Donc, on sait bien que c'est pas évident, qu'aujourd'hui, tout ce qu'on retrouve de manière très facile, c'est ce qui est de la fast fashion. Et aujourd'hui, la fast fashion, les femmes en sont les premières victimes. Hein. Clairement, dans les pays producteurs, la majorité des ouvriers sont des femmes et qui travaillent dans des conditions mais absolument abominables. Et on peut pas en fait juste défendre ça pour un t-shirt à 5 euros. Enfin, là, je m'énerve. Moi, je dis ça et j'ai pas encore réussi à changer tous mes modes de consommation sur l'habillement, etc. Mais on fait un pas après l'autre, etc. Mais quand on y repense, me dire, ok, je vais m'acheter un t-shirt à 5-10 euros et c'est une femme qui l'aura fait à l'autre bout du monde, payer 10 centimes, enfin, rien, qui travaille des heures par jour. Et ça, c'est des conditions de vie que moi, je m'infligerais même pas, en fait. Donc pourquoi m'infligerais aux autres? Excusez-moi.
C'est ok.
Mais c'est...
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a une question?
Et du coup, alors, c'est quoi ta façon de consommer de la mode, alors, du coup?
Ah bah, pour le coup, c'est pas mal d'occasions. Ouais. Et maintenant, j'essaie vraiment de... Bah, alors pareil, je viens de loin. Donc, à une époque, je faisais les boutiques le samedi et je les réalisais. Maintenant, c'est plus du tout ça. Je repense vraiment de quoi j'ai besoin exactement. J'achète plus par spontanéité, en fait. J'achète des choses dont j'ai besoin. Je fais très attention en matière aussi maintenant pour prendre des vêtements de qualité qui me durent dans le temps et les choses qui sont un peu des indémodables. Ou je fais de la couture aussi.
Là, j'ai tiré deux fois. Attention, j'ai point de briques. Je dirais un stage d'autodéfense féministe pour toutes les femmes. Parce qu'en fait, le problème, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup. Mais en fait, les femmes ne sont pas empuissancées dans leur corps. C'est-à-dire que, en fait, c'est bien de dire « Ah oui, mais j'aime pas les violences sexistes », je veux dire, tout le monde est d'accord. Après, concrètement, quand tu vis une agression, que ce soit verbale ou physique, comment tu te défends, en fait? Comment tu prends la parole? Comment t'as confiance pour répondre? Comment tu agis? Comment tu as confiance que tu peux répondre physiquement à un homme? Que tu as de la force? Que voilà. En fait, ça, je pense que c'est vraiment essentiel et c'est complètement lié. Et puis, le deuxième point, ce serait de changer toute la hiérarchie des valeurs qui est dans l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est fondé sur l'Union européenne depuis 70 ans. Et en fait, le problème, c'est que le cœur de l'Union européenne, c'est la libre concurrence. C'est le libre marché. C'est pas, prenons soin des gens. C'est pas ça, en fait. C'est pas prenons soin des gens, c'est pas prenons soin de la nature. Les seules valeurs cardinales au niveau de l'Union européenne, c'est la thune, les sous-sous de la poche. Du coup, le problème, c'est que, en fait, tout est... toutes les directives, tous les règlements qui sont ensuite transposés dans les États membres de l'Union européenne viennent de ces valeurs-là. Et donc, en fait, on peut très bien dire, nous, à notre échelle, oui, l'écoféministe, c'est bien. En fait, même si... du coup, c'est clair que c'est ambitieux hein, comme objectif. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment... si on veut changer les choses radicalement, c'est au niveau de l'Union européenne qu'il faut changer les traités fondateurs de l'Union européenne. Parce que aujourd'hui, non mais voilà, c'est ça en fait le problème, c'est que et en fait je regardais dans mes notes parce que j'ai fait récemment un petit atelier de brainstorming avec différents juristes et tout, et du coup on voulait proposer un cours de critique radicale du droit néolibéral, patriarcal, colonial, technocentré et anthropocentré, et on s'est dit que ça allait être hyper bien reçu à la fac, mais en fait le truc c'est qu'il y a un vrai problème de aujourd'hui on est dans un état de droit, on pense que l'état de droit protège les gens alors que c'est pas vrai. L'état de droit dans lequel on est protège les intérêts économiques, voilà. Et du coup, le fait de se dire ah oui, mais c'est légal, et ben c'est super, ben en fait non, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses légales qui ne sont pas légitimes, il y a beaucoup de choses légales qui ne sont pas justes, il y a beaucoup de choses légitimes qui sont illégales. Voilà, quand on fait la désobéissance civile, c'est légitime, mais c'est illégal. Et en même temps, si on fait pas ça, on va dans le mur, parce que clairement il y a quand même 1000 scientifiques qui ont signé une tribune pour appeler toute la population à la désobéissance civile il y a 2 ans, parce qu'on est dans une urgence climatique, écologique, sociale, coloniale, tout ce qu'on veut. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un truc d'être ambitieux et d'imaginer quelque chose fondamentalement. Et du coup, l'Union européenne, enfin, je veux dire, le truc de l'économie avant l'écologie et tout, enfin, c'est plus possible en fait. C'est l'économie avant les gens, l'économie avant. Enfin, en fait, ça, on va dans le mur et il y a plein de rapports qui le disent tout le temps. Mais à un moment, si en fait on change pas les fondamentaux de notre système qui expriment en fait des valeurs philosophiques, hein, parce que en fait, les traités fondateurs de l'Union européenne, c'est la philosophie néolibérale. Enfin, voilà, c'est les sous-sous dans la poche avant de savoir si on est en bonne santé ou de savoir si on préserve les arbres.
Donc, clairement, je crois que cela nous donne quelques opportunités et vues sur ce qu'on peut faire, sur la façon dont on peut s'engager dans l'écoféminisme, en commençant tout simplement par s'informer, lire, avant de prendre les pancartes ou de faire des actions de désobéissance civile, hein, bien sûr. Il y a plusieurs niveaux. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées pour celles et ceux qui nous écoutent. À présent, on va écouter Marie-Charlotte qui va nous parler d'un levier qui nous tient particulièrement à cœur dans ce podcast. Donc sans surprise, c'est celui de la place du travail dans la société. Année au travail, on est à 400% convaincus par ses propos, donc on l'écoute.
Je pense que un des leviers les plus puissants qu'on aurait aujourd'hui, c'est la place du travail en fait, dans la société. Et je le dis, en plus là, on sort d'une semaine où on a, dans l'hémicycle, on travaille sur la loi, on a voté la loi assurance chômage, et on voit qu'on a vraiment des blocs idéologiques sur ce que devrait être le travail et ce qui n'est pas aujourd'hui. Et je pense que c'est essentiel à plein d'égards, parce que bah, 80% des temps partiels, en fait, c'est des femmes. Une famille monoparentale sur trois, elle vit sous le seuil de pauvreté. On n'a pas encore... et on sait que les familles monoparentales, en fait, principalement, c'est des femmes. Il y a les inégalités de salaire qui persistent. Quand on parle de la place aussi du travail, enfin, ce qu'on appelle the second shift, en anglais, la deuxième journée, donc c'est la journée qu'on a après le travail, parce qu'il faut rappeler que le travail, à l'heure actuelle, il a quand même été pensé dans un cadre où la femme reste à la maison, d'accord ? C'est l'homme qui travaille, donc en fait, il y a une seule des deux personnes dans le foyer qui travaille. Et là où c'est problématique, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les femmes, on travaille aussi, mais on continue à faire tout le reste à côté. Donc, c'est là où on se dit que le format 35 heures ou 40 heures, 60 heures, dans le pire des cas, il n'est pas du tout adapté à la réalité, notamment des femmes aujourd'hui, puisque c'est un costume, c'est un bleu de travail qui a été taillé pour les hommes, en fait. Et donc, moi, je pense que un des enjeux, c'est vraiment la place du travail. Et une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi ? Bah, ça veut dire, est-ce qu'on parle de la question du revenu universel ? Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'on parle de la réduction du temps de travail avec une semaine de 4 jours ? Est-ce qu'on parle, en fait, d'un congé parentalité qui soit vraiment à égalité pour l'homme et la femme ? Parce que là, tu agis forcément sur la question de la parentalité, des stéréotypes, et sur la question des écarts de salaire, puisque c'est aussi à l'occasion des grossesses que ça se creuse de plus en plus. Et j'ai dit congé parentalité, réduction du temps de travail, et oui, et aussi ça pose la question, c'est aussi un enjeu environnemental et sociétal, parce que ça veut dire qu'on ralentit si on travaille moins, et ça veut dire qu'on vient réinvestir aussi les lieux du vivre ensemble, les lieux de la solidarité, on recrée du lien avec le vivant, parce qu'en fait on a du temps pour ça, parce qu'on n'est plus tout le temps, on est dans le travail et le week-end à faire les courses et la logistique et à emmener les gamins chez le pédiatre et tout ce que vous voulez. Et ça veut aussi dire réapprendre à faire communauté, en fait. Si on désinvestit un petit peu les lieux le lieu du travail, on réapprend à faire communauté, et là du coup on est complètement dans un truc écoféministe, parce qu'on est dans le vivre ensemble, dans le prendre soin et d'en sortir, en fait, de la course effrénée qui est, pour moi en tout cas, le travail aujourd'hui, où c'est problématique. Donc on a du boulot, hein, avant d'arriver, de faire mon genre, hey, les gars, vous signez là, c'est vachement bien ce qu'on propose.
Ce que Marie-Charlotte vient de décrire là, en fait, c'est un peu la vision d'un monde idéal, où l'on prendrait soin les uns des autres, où chacun serait considéré, pris en compte, et aurait la reconnaissance qu'il et elle mérite. Alors j'ai une question pour Marie-Charlotte. Où en est-on aujourd'hui en politique ? Est-ce que l'écoféminisme est entré dans le débat politique, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là ?
Je crois que le progressisme, de manière générale, le propre, c'est d'être toujours trop tôt, en fait. Alors non, mais on regarde, et moi je le dis d'autant plus tranquillement, où je viens d'une famille politique, pour le coup, où en fait ça fait genre 70 ans qu'on vient dans le vide, quoi. Et Printemps silencieux, c'était Rachel Carson, un des premiers ouvrages vraiment enfin, on dit que c'est un peu le début de l'écologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. C'était en 62. C'est dingue, quoi. Et tu citais l'action du Patagone, ouais. Françoise Daubonne, etc. Enfin, tout ça, c'était hyper longtemps. Et les suffragettes, c'était trop tôt aussi. Si tu demandais pour les contemporains, entre guillemets, de ces mouvements-là, c'était trop tôt. Les émeutes de Stonewall en 69, donc c'est un peu l'événement mère, on va dire, des mouvements LGBT, bah c'est pareil, c'était trop tôt. Donc finalement, on est toujours trop tôt quand on a une vision progressiste du monde et une vision, en fait, émancipatrice. Et je crois que c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, parce que de facto, le système, il se resserre, il se crispe, il dit non, faut pas sortir de votre petite boîte. Donc c'est normal qu'on arrive et qu'on soit regardé un peu différemment, et d'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, c'est que l'écoféminisme, c'est un objet clou. Et c'est très insécurisant pour les dominants, entre guillemets, de ne pas pouvoir bien ranger dans une boîte un mouvement qui est justement si hétérogène. Et tant mieux, en fait. Et ça se chérit et ça se cultive et ça se protège aussi, quoi. De se dire, bah non, c'est ok, on n'a pas besoin d'être toutes d'accord tout le temps, de rentrer toutes dans la même boîte. Enfin, c'est ok. Et je pense que dans l'écoféminisme, effectivement, il y a des branches qui sont très différentes et tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Et c'est quelque part, c'est le truc de se dire, en fait, on s'en fout. Parce que notre job, c'est d'être la lame de fond qui va tout emporter à la fin. Et je crois que je le réaffirme encore plus fort aujourd'hui, parce qu'on est en train de se prendre un backlash dans les dents d'une puissance assez monumentale. Il faut se souvenir que la lame de fond, c'est nous, en fait. Et depuis 5 ans, c'est nous qui sommes en train de changer, d'opérer des changements culturels dans cette société. Donc un peu rester accroché à cette vague très puissante et se dire les vaguelettes et les petits backlash qu'on se prend en surface, c'est ok. Et ça va durer encore longtemps parce que on en revient à la question de privilège, la question de pouvoir. Forcément, il y a des résistances quand on vient questionner ça. Donc oui, c'est trop tôt, mais le progressisme, ça a toujours été trop tôt. Et du coup, c'est pas une raison pour lâcher.
On espère que cette immersion au sein de l'Écofémina Festival vous a plu et que vous avez réussi à vous imprégner de cette atmosphère sororale et joyeuse. Peut-être que vous avez découvert l'écoféminisme, comme Céline. Peut-être que vous avez, vous aussi, eu envie de rire en écoutant des extraits de la table ronde. Peut-être que vous comprenez tout l'intérêt de la thématique autour du cycle menstruel. Le sujet des règles, c'est un symbole fort de la convergence des luttes écologiques et féministes. Et au même titre que chaque personne menstruée vit son cycle différemment, l'écoféminisme est un mouvement pluriel. Il permet une vision grand angle sur le monde, tout en permettant la diversité des paroles, des vécus et des expériences. Merci aux incroyables organisatrices et bénévoles de l'Écofémina Festival d'avoir fait rayonner l'écoféminisme. Et merci à vous de vous y être plongés avec nous.